Bonjour Geoffroy Didier.
Bonjour.
On a assisté samedi à des scènes assez incroyables dans Paris et dans d'autres villes de France d'ailleurs, liées aux manifestations des Gilets jaunes. Pour vous, de quoi s'agit-il ? Est-ce que le mouvement est en train véritablement de se radicaliser ? Ou est-ce que les violences et les dégradations sont le fait de mouvements, de groupuscules opportunistes ?
D'abord, pour les Républicains, les choses sont très claires. D'où qu'elles viennent, et je dis bien d'où qu'elles viennent, ces violences sont inexcusables. Elles sont insupportables. Elles doivent donc appeler une réponse, certes policière, mais aussi judiciaire particulièrement ferme. Parce que je pense aux policiers, je pense aux pompiers, je pense aux commerçants, je pense à tous ceux qui ont vu leurs économies, leurs magasins, leurs voitures flamber en quelques instants, et tout cela n'est absolument pas excusable. D'où que les violences proviennent, parce que j'imagine qu'il y en a qui ont profité de la situation pour enfiler un faux gilet jaune, et d'autres qui étaient sans doute des gilets jaunes sincères, mais qui se sont emballés avec ces violences. La société devient de plus en plus violente, soyons-en conscients, mais ces violences sont inexcusables et ne justifient en rien aujourd'hui ce qui s'est passé samedi.
Vous êtes, Geoffroy Didier, vice-président de la région Île-de-France, en charge notamment de l'attractivité économique. Les violences de ces dernières semaines ont-elles des conséquences lourdes en termes précisément d'attractivité économique pour la région Île-de-France ?
Bien sûr.
Paris en particulier, et peut-être les Champs-Élysées précisément ?
Bien sûr, je me souviens il y a un an et demi, lorsqu'Emmanuel Macron a été élu président de la République française, il y avait un point positif. C'est que par rapport à son prédécesseur François Hollande, il avait renforcé l'image, l'attractivité de la France dans le monde. Et nous étions tous d'accord pour le saluer. Mais quelle image ? Quelle image renvoie-t-il aujourd'hui en laissant de telles violences et surtout en laissant une telle colère monter avec un silence de sa part, un mépris, une arrogance et une morgue ? J'imagine effectivement que beaucoup de touristes japonais, américains, en voyant ces images, en voyant les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, celle qui dans leur esprit devrait être la plus préservée, renonceront à leur voyage, renonceront à leur visite. Il y a effectivement des conséquences économiques désastreuses qui sont encore insoupçonnées tant on parle aujourd'hui uniquement des violences et de la réponse politique qui est évidemment nécessaire.
Vous avez parlé et dénoncé d'une certaine manière le silence d'Emmanuel Macron. Vous pensez que le président de la République aurait dû s'exprimer hier ?
Bien sûr, mais il aurait dû s'exprimer déjà depuis un certain nombre de semaines. Parce que...
Oui, mais hier, la crise a pris une nouvelle dimension.
Oui. En semant le mépris, il a récolté la colère. Et je comprends ces gilets jaunes, qui certes sont des Français à bout, qui n'en peuvent plus, qui travaillent pour une grande partie d'entre eux, mais qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui le 10 du mois se posent la question de savoir comment ils vont terminer le mois. Mais ce que je comprends aussi, c'est que leur exaspération monte au regard du silence et du mépris dont fait preuve le gouvernement, Emmanuel Macron qui est glacial et distant, et Édouard Philippe qui l'est tout autant. Donc à l'exaspération légitime sur l'augmentation insensée des impôts et des taxes, s'est ajouté effectivement un mépris qui est insupportable.
Alors le Premier ministre va recevoir aujourd'hui les chefs de parti. D'abord d'un mot, est-ce que vous pensez que c'est le président de la République lui-même qui aurait dû le faire ?
Oui. Ça fait un an et demi que Laurent Wauquiez et que les Républicains demandent à être reçus par Emmanuel Macron lui-même. Et manifestement, le président de la République ne considère pas la situation suffisamment préoccupante pour avoir l'idée de recevoir les chefs de parti. Mais surtout, il faut maintenant qu'on sorte de cette affaire-là. Donc, ce que nous demandons, c'est une réponse immédiate. Même pas besoin de consulter les chefs de parti pour la prendre. Au 1er janvier, il doit y avoir une augmentation nouvelle des taxes, 3 centimes par litre d'essence, 6 centimes par litre de gasoil. Nous demandons à ce que Emmanuel Macron et Édouard Philippe y renoncent immédiatement. Et puis ensuite, il faut évidemment une sortie de crise et pas uniquement bouger la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc ce que nous souhaitons, parce que c'est un mouvement inédit, citoyen, qui n'est pas un mouvement politique ou qui n'est pas un mouvement de syndicats professionnels, que nous donnions la réponse par le peuple, c'est-à-dire que nous redonnions la parole au peuple à travers un référendum. Nous pensons aujourd'hui que non seulement Emmanuel Macron n'a manifestement plus l'autorité pour faire ce qu'il est en train de faire, mais il n'en a pas non plus la légitimité. Il n'en a pas la légitimité parce que cette hausse insensée de taxes n'était pas à son programme, il n'en a pas la légitimité parce qu'il y a aujourd'hui une colère qui est en train de monter dans ce pays dont il est bien obligé de prendre compte.
Un président de la République, a priori, a la légitimité de conduire la politique qu'il veut. Il n'est pas tenu ni lié par le programme qu'il a défendu pendant sa campagne présidentielle. Je parle du point de vue constitutionnel.
Emmanuel Macron a manifestement un fantasme, c'est de présider une démocratie sans le peuple. Et il va falloir qu'il comprenne une chose, c'est que le peuple est en train de se réveiller et le peuple manifeste tout simplement qu'il n'en peut plus, qu'il est tabou, que cette augmentation de taxes lui est insupportable. Donc, s'il ne se décide pas à écouter le peuple, libre à lui, mais on ne s'appelle plus dans ces cas-là une démocratie.
Vous parlez donc d'un référendum. On sait à quel point les référendums peuvent être des fois des pièges politiques. Comment serait formulée la question ?
La question, c'est de savoir si oui ou non les Français considèrent comme possible, comme souhaitable, comme supportable la politique de fiscalité écologique telle qu'elle est mise en œuvre aujourd'hui par Emmanuel Macron. Et s'ils y répondent non, cela contraindra le président de la République à changer de politique. Nous avons une solution républicaine. Nous considérons aujourd'hui que si Emmanuel Macron fait payer tant d'impôts et de taxes aux Français, c'est qu'il n'a pas eu le courage de mettre en œuvre les véritables réformes structurelles que nous appelons de nos vœux. Il y a aujourd'hui une possibilité de se constituer des nouvelles marges de manœuvre financières. Si on aligne par exemple le secteur public et le secteur privé sur le régime des retraites, si on met en place une allocation sociale unique qui sera plafonnée à 75% du SMIC pour que travailler soit toujours plus valorisé que de ne pas travailler, si on supprime l'aide médicale d'État au profit d'une assistance médicale d'urgence, on récupère des marges de manœuvre financières qui permettront de renoncer à cette hausse insupportable d'impôts et de taxes. Il existe, Frédéric Rivière, une alternative à la hausse de la fiscalité en France. Mais aujourd'hui, cette hausse, elle n'est plus légitime au regard de la colère qui est en train de monter dans ce pays. C'est la raison pour laquelle nous en appelons à donner la parole au peuple.
Le mouvement des Gilets jaunes est soutenu par à peu près 80% des Français, d'après ce que nous disent les sondages. Vous croyez qu'aujourd'hui, le président de la République ignore que les augmentations de taxes sur les carburants sont très majoritairement impopulaires ?
Je crois que le président de la République est perdu, et qu'il n'est pas seulement perdu, qu'il est perché. Et c'est cette déconnexion avec la réalité à laquelle je l'invite à remédier. Et surtout, il y a aujourd'hui une situation qui est préoccupante, une situation qui est préoccupante sur le plan social, à laquelle s'ajoute un problème sécuritaire. Il est urgent qu'Emmanuel Macron en tire les enseignements opérationnels.
Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, disait hier encore, il n'y aura pas de changement de cap, parce que le cap est bon. Comment vous interprétez ce propos ? Est-ce que c'est une manière de dire, et à la veille de recevoir les chefs de parti, on va vous écouter, mais on ne changera rien ?
Le porte-parole du gouvernement nous avait habitués à être péremptoires. Il est manifestement en plus insensé. Parce que lorsque le cap est malheureux, ne pas y renoncer, ça s'appelle de l'entêtement. Lorsqu'on est au bord du précipice, on n'est pas obligé de tomber dedans. Donc Emmanuel Macron et les siens ont manifestement perdu leur boussole, qu'ils ne le fassent pas supporter aux Français.
Est-ce que vous redoutez que des mesures efficaces du point de vue de la colère des Gilets jaunes ne soient pas prises dans les jours qui viennent et que les événements se répètent, voire s'amplifient le week-end prochain ?
La clé du problème, elle est aujourd'hui dans le coffre-fort de l'Élysée. C'est à Emmanuel Macron et à lui seul de nous dire s'il accepte ou pas l'idée que de nouvelles violences, que de nouvelles manifestations, que la colère continue de monter. Il a aujourd'hui la solution et il est donc responsable de ce qui va se passer et de ce qui s'est passé et de surtout de ce qui risque de se passer à nouveau s'il ne répond pas à cette colère par une réponse politique.
Est-ce que le parallèle que font certains avec ce qui s'est passé en mai 68 vous paraît pertinent ?
Je n'étais pas né en mai 1968.
Non, mais enfin, vous l'avez étudié.
De ce que j'en ai lu et vu, mai 68, c'était une sorte de révolution du bonheur. C'était plus fleuri. Aujourd'hui, malheureusement,
enfin, dans les rues de Paris, ça n'était pas non plus que à coups de pâquerettes et de roses qu'on s'affrontait. Hein.
Bien sûr, mais je ne crois pas qu'on puisse comparer ce qui n'est pas comparable. Aujourd'hui, les Français sont à bout, ils n'en peuvent plus, alors qu'en mai 68, ils rêvaient.
Merci Geoffroy Didier, bonne
Merci.
Journée.